radio du Vendômois.
Dans la ville des filles.
Elles sont en voie de disparition ou non, comment on qualifie les milieux, disons, en disant, tiens, en fonction des insectes qu'on va trouver dans les environnements, on sait si les environnements sont en bonne santé, comme on dit. Et il y a aussi beaucoup de sensibilisation. On a une revue qui s'appelle la revue Insectes. On reçoit beaucoup de monde dans la maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. On fait ça depuis très longtemps. La vocation pédagogique de l'OPI est très très forte, en plus de ses études entomologiques sur le terrain.
Alors vous dites, on s'est intéressé aux insectes il y a peu de temps. Vous, votre passion pour les insectes, si je ne me trompe pas, elle vient de votre goût pour l'originalité. Expliquez-nous.
Alors, en partie, c'est vrai. C'est vrai que pour s'intéresser aux insectes dans une culture très entomophobe et arachnophobe, on n'aime pas les araignées, ben c'est vrai qu'il faut.
Ce que j'ai dit était juste. On est d'accord. Hein, les arachnées, les araignées ne sont pas des insectes.
Ah, pas du tout. Bon, pas d'ailes, pas d'antennes, trop de pattes, vraiment rien à voir.
Ah, on va détailler ça tout à l'heure.
Rien à voir. Et c'est vrai que on est un peu encore entomophobe, insectophobe. Et donc apprécier les insectes, faut être un peu décalé. Je ne sais pas ce que diront Léna et Mathieu. Et puis il y a autre chose qui est important, c'est de pas en avoir peur. Ça, c'est vraiment important parce que pour s'intéresser aux insectes, comme tout le monde en a peur et tout le monde va nous dire des choses négatives sur les insectes, et ça, j'en parlerai, c'est important d'essayer de dire des choses positives plutôt sur ces animaux, ces petits animaux, parce qu'il y a finalement, il y en a très peu qui nous embêtent. Mmh. Et bien, ne pas en avoir peur, ça permet aussi de s'y intéresser. J'aime bien les choses qui ne sont pas, qui sont un peu originales, et surtout, j'ai une grande passion pour les autres, qu'ils soient humains ou non. Vraiment, j'adore rencontrer d'autres personnes, qu'elles soient humaines ou non, d'autres cultures, et aller à la rencontre des autres animaux, c'était vraiment quelque chose qui continue à m'animer, qui me passionne. Et les insectes sont parmi les premiers animaux, les premières cultures qu'on peut rencontrer très facilement. Elles sont là à portée de main. Parce que quand vous vous intéressez aux mammifères, c'est pas facile, il faut faire des affûts pendant très longtemps. Les oiseaux, on y arrive quand même avec des jumelles, mais on est rarement en contact. Alors que les insectes...
C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup pour avoir des insectes à proximité. Alors, Scarabette, vous êtes d'accord que je vous appelle Scarabette, qui est
oui,
votre...
c'est très bien.
D'accord, on va faire ça. Scarabette, comment vous, vous êtes passionnée pour les insectes ?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école un peu type Montessori. Et de par mes cours de sciences où on allait dehors et on allait au contact de la nature, j'avais un professeur qui était génial. Je me souviens de lui avoir ramené des gendarmes et lui avoir dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est plein de couleurs, qu'est-ce que c'est ?» Il m'a appris plein de choses sur eux. Et il y a eu un peu ce rituel où ben, moi, j'étais celle qui lui ramenait les petits insectes, les petites bêtes que les autres ne trouvaient pas forcément très, très ragoûtants. Et ce lien s'est créé comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée de toute façon à tous les animaux et à la nature en règle générale. Et c'est les insectes qui ont conquéri mon cœur et qui continuent encore à le faire.
En fait, vous avez eu la chance d'avoir un prof. Ça nous arrive tous d'avoir un prof qui a changé notre vie, je pense. Mais lui... En étant petite, vous aviez cette curiosité qu'ont souvent les enfants par rapport aux insectes, on est bien d'accord. Vous, Mathieu Lioro, cette passion, elle vous est venue comment ?
Elle est venue très tard et par hasard. Quand j'étais enfant, moi, j'avais plutôt tendance à jouer avec les fourmis et parfois à les écraser, ce que je ne fais plus, bien sûr. Par contre, voilà, je me suis à l'université, je me suis engagé dans des longues études pour devenir éthologue, pour étudier le comportement animal. J'étais vraiment passionné par les animaux, mais je me rêvais plus travailler sur les orangs-outans à Bornéo ou dans le Pacifique sur les baleines bleues. Seulement, mon professeur en licence à l'époque m'a proposé un stage d'éthologie et j'ai pas vraiment eu le choix. Donc j'ai accepté et il s'avérait qu'il travaillait sur les fourmis. Alors j'ai eu une petite déception quelques jours. Et puis, au bout d'une semaine, j'étais complètement fasciné.
Ah, vous étiez déçu qu'ils vous proposent des fourmis.
Ah oui, tout à fait. Je rêvais de plus gros animaux et d'exotisme. Donc, j'ai travaillé sur ces fourmis au laboratoire, dans des petites boîtes en plastique. Et au bout de quelques jours, j'étais complètement fasciné et j'ai pas du tout lâché le monde des fourmis. Comme ça a été dit tout à l'heure, les insectes, c'est un univers qui est à notre portée.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez un insecte de prédilection ?
Alors moi, en tant que scientifique, je me suis spécialisé de plus en plus et j'ai un insecte modèle, donc une espèce sur laquelle je travaille énormément, tous les jours, c'est le bourdon commun, le bourdon terrestre. Donc le bourdon terrestre, c'est une abeille, fait partie de la grande famille des abeilles, on a 20 000 espèces d'abeilles sur Terre. Et ces bourdons terrestres, ce sont les grosses abeilles qu'on peut voir assez facilement en France, dans les jardins, qui butinent, ce sont des abeilles sociales.
Vous avez encore des choses à apprendre sur les bourdons ?
Ah oui, énormément. J'en sais beaucoup moins que ce que je pourrais savoir à la fin de ma vie.
Cette phrase, c'est un peu une hérésie, parce que c'est comme si je vous demandais si on avait encore des choses à apprendre sur l'homme. Voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, je pense. François Lasserre, est-ce qu'on pourrait parler, parce que je l'ai dit en introduction, ces insectes, on a une appréhension parfois. Parfois, j'ai lu un chiffre de l'Ipsos qui dit que 7 Français sur 10 ressentiraient même du dégoût envers les insectes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une insectophobie, phobie culturelle ?
Oui, très largement dans notre culture, oui. Il y a d'autres pays où c'est très différent. Si vous étiez né dans un autre pays, par exemple les araignées, alors qui ne sont pas des insectes, mais des petites bêtes quand même, ne serait pas un sujet. Vous voyez, il y a des pays, il y a une grosse araignée au plafond, tout le monde s'en moque. Alors que nous, ça va être un vrai sujet. Alors ce qui est vrai, c'est que à partir de quelques espèces, on a vraiment aseptisé nos environnements en France. On a aussi une culture très jardin à la française, donc on a un peu aseptisé tous nos environnements. On n'a pas tellement envie de cohabiter avec les non-humains. Et les rares qui peuvent venir jusque sur nos déchets ou nous piquer parfois sont des insectes. Et c'est vrai qu'à partir d'anecdotes, d'individus, de quelques espèces, et des individus au sein de ces espèces, on se fait une image un peu déplorable des insectes, alors que quand on creuse, comme l'a dit Mathieu, dès qu'on rentre, qu'on met une loupe dans le monde des insectes, c'est complètement infini, et l'immense majorité des insectes ne nous en veulent pas. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petits individus qui peuvent nous embêter parfois, mais si on arrive à dépasser ça et être un peu plus curieux, on se rend compte que c'est un univers absolument incroyable et passionnant.
Pourquoi est-ce qu'on en a souvent peur ?
Alors, parce que certains, comme par exemple la guêpe, c'est vrai, peuvent nous piquer parfois. Et vous voyez, je mets le conditionnel parce que c'est très très rare de se faire piquer par des guêpes. Infiniment rare. Et certains peuvent venir nous sucer le sang comme les moustiques. Mais c'est vrai que du coup, à partir de ces exemplaires et de cette méconnaissance et du fait qu'on ne les côtoie plus jamais, dès qu'ils s'approchent, on a l'impression qu'ils vont nous piquer ou nous mordre. Voilà. Je reçois toute l'année des photos d'insectes en disant est-ce que ça pique, est-ce que ça mord, c'est jamais, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est joli, jamais, jamais.
Ouais, c'est toujours par le négatif. On va rentrer dans le détail tout à l'heure de ces piqûres ou pas et de la dangerosité des insectes en fait. Mais est-ce que les médias jouent pas un rôle dans cette peur qu'on a des insectes ?
Alors c'est un peu les trains qui arrivent en retard. C'est vrai qu'on aime bien jouer sur nos biais, nos biais de négativité. On est un peu stressé. Et on va surtout faire d'anecdotes des généralités. Ça, c'est vraiment très fort dans notre esprit. Donc, si une guêpe nous a piqué une fois, on va penser que toutes les guêpes nous piquent. Ce qui est complètement faux. Mais du coup, dès qu'une guêpe approche, on est stressé. Alors, on a un peu raison, parce qu'elle pourrait le faire. Mm-hmm. Mais si on ne la coince pas, quand elle est loin du nid, elle est complètement inoffensive. Que ce soit une guêpe, un frelon, un bourdon, une abeille, etc.
C'est très très important que vous nous disiez tout ça et qu'on recueille ces informations, qu'on les accueille en tout cas. Vous, Scarabette, vous imaginez des vidéos pour changer le regard justement sur les insectes. Et je peux vous dire que quand on vous écoute, on a envie d'adopter un Symbex femoratus.
Ah, c'est pas une chenille. Et c'est pas un Pokémon non plus. Et je peux vous dire que cette petite bête trop mignonne, elle va pas le rester longtemps. C'est ce qu'on appelle une fausse chenille. Elle va pas donner un beau papillon, mais plutôt ça. Un frelon noir à échancrure. Alors, le nom fait peur. Mais ok, c'est un insecte proche des guêpes, sauf qu'il est complètement solitaire et surtout, il a pas de dard. Il est complètement inoffensif. Donc, on dirait un gros machin méchant, mais en fait non. En fait, il fait le gros dur, mais c'est surtout pour que les prédateurs le laissent tranquille. Et en plus, il va se nourrir de fleurs de nectar. Donc en fait, c'est un pollinisateur.
Vous mettez tout votre cœur, voilà, à nous les faire rêver, ces petites bêtes. Quelle est l'idée reçue la plus tenace sur les insectes, d'après vous, Scarabette ?
Que c'est dangereux, que c'est sale et que ça pique.
Alors cette réponse, je vais vous dire, elle est claire, elle est concise et je l'adore. Le royaume des insectes est bien trop méconnu des humains, je le dis et je le répète. Parfois, l'inconnu fait peur, mais il peut aussi être fascinant. L'inconnu, c'est le thème de cette chanson de Bertrand Belin, « L'inconnu en personne ».
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam. Mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil. Il y en a une dans un cul-de-sac. Un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone. Le rire qui carillonne, la face qui rayonne. Une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort. L'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une.
Bertrand Belin, l'inconnu en personne.
Grand bien vous fasse. Yasmine Oulis. Sur France Inter.
Si nous ne faisons pas naturellement preuve d'empathie envers les insectes, c'est avant tout parce qu'on ne les connaît pas. Ça tombe bien. Ce matin, je suis avec trois spécialistes, Scarabette, François Lasserre et Mathieu Liorot. François Lasserre, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi là, en fait, ce que je veux, c'est vraiment qu'on en sache plus sur les insectes de manière, je dirais, anatomique, très détaillée. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ils ont un point commun, ils ont 6 pattes.
Oui.
Ok. Mais à part ça, qui sont les insectes ?
Alors déjà, j'aime bien rappeler que ce sont des animaux, des petits animaux, non humains. Et donc déjà, mettre le mot animaux, vous voyez, c'est un animal qui s'approche de vous. C'est pas un insecte.
Je suis tout à fait d'accord. Déjà, quand on dit animal, on a plus d'empathie, c'est plus positif. Je suis d'accord.
Voilà. Et du coup, il suffit d'une simple loupe de bureau, une guêpe s'approche, comme elle est inoffensive maintenant, vous le savez, elle s'approche, vous prenez une loupe, vous allez voir que c'est un petit animal qui a ses pattes, qui se nettoie, qui bouge, qui regarde à droite à gauche, qui goûte. qui goûte avec sa bouche, qui touche avec ses antennes pour sentir un peu, et qui a des ailes souvent. Parce qu'en plus d'avoir six pattes, la plupart des insectes, quand ils sont adultes, ont des ailes. Et ça, c'est assez particulier aux insectes. Parmi toutes les petites bêtes qui vivent autour de nous, toutes les petites bêtes qui ont des petites pattes, par exemple, les araignées ne volent jamais, les cloportes ne volent jamais, les écrevisses ne volent jamais. C'est pourtant des cousines des insectes, par exemple. Donc c'est vraiment ça, une particularité des insectes, même si des insectes n'ont pas d'ailes ou n'en ont plus au cours de l'évolution, elles sont parties.
Depuis quand ils existent sur Terre ?
400, alors là je me tourne vers Mathieu, mais 450 millions d'années environ ?
Oui, c'est à peu près ça. Donc il n'y a pas de certitude, mais les premiers fossiles dans l'ambre, c'est cette époque-là.
Et on a identifié l'espèce ? Alors, je me reprends, parce que tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit cette espèce en parlant des insectes, alors qu'en fait, il y a plein d'espèces, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est la majorité des animaux sur Terre. Donc il y a au moins 1 500 000 espèces décrites, et il y en a certainement beaucoup plus. Donc c'est le plus grand nombre d'habitants sur Terre en termes d'espèces, de nombre d'individus et de biomasse.
Donc si Mathieu dit si, emploi le conditionnel, c'est qu'on n'a pas été au bout, on ne sait pas en fait, François Lazare.
Bah, en fait, ce que dit Mathieu, il y a 1 ou 1,5 million d'espèces identifiées et on en soupçonne 2, 3, 5, 8 millions. Certaines personnes disent des dizaines de millions. En fait, on ne sait pas du tout qui sont les insectes qui vivent sur Terre. On a une petite idée de tous les autres animaux aussi, parce qu'il y a très peu d'arachnologues qui s'intéressent aux petits acariens de la forêt tropicale. Et il y a peut-être encore plein d'espèces à découvrir. Enfin, il y a encore plein d'espèces à découvrir. On est très loin de... D'ailleurs, saura-t-on un jour combien il y a d'espèces avant notre disparition ? On ne sait pas.
Mais c'est plutôt ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas, justement. Et on va accepter qu'on ne sait pas. Vincent Liorot, vous l'avez dit tout à l'heure, votre insecte de prédilection, c'est le bourdon. Alors, moi, j'ai une question quand même assez claire et technique. Les guêpes, les abeilles, les frelons et les moustiques, selon moi, ont un point commun. Et dans le sens commun, c'est celui-là, c'est qu'ils peuvent nous piquer. Hein ? Ils peuvent nous piquer. Ils en ont la possibilité. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez pourquoi ils nous piquent.
Alors exactement. Donc, vous avez cité 4 exemples. Il y a 3 exemples qui se rapprochent. Donc, il y avait les bourdons, les guêpes, et les frelons.
Ah, j'ai pas cité le bourdon. J'ai dit les guêpes, les abeilles, les frelons, les moustiques. J'ai oublié le bourdon.
Ah bon, on va parler des abeilles, des guêpes et des bourdons. Donc ça, c'est le même groupe. C'est le groupe des hyménoptères. Il y a aussi les fourmis à l'intérieur de ce groupe.
Vous ne savez pas prendre de photos, mais vous en prenez suffisamment pour saturer la mémoire d'appareils qui, quand même, aujourd'hui, ont des capacités illimitées. Hein. Donc vous vérifiez avant. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que moi, je me retrouve à choisir avec vous des photos à effacer qui ne m'intéressent pas. D'autant que là, je vais me rendre compte que vous avez pris des photos avec tous les artistes qui sont passés dans la région. Donc moi, ça va me titiller. Ah bah, petit égo d'artiste, hein, évidemment. Parce qu'en fait, vous ne prenez pas une photo avec moi parce que ça vous fait plaisir. Vous prenez une photo avec moi parce que c'est en fait pour compléter une collection, en fait. En fait, vous venez pas à mon spectacle parce que vous appréciez mon travail. Vous venez à mon spectacle parce que vous allez à tous les spectacles qui passent dans la région. Donc là, on a affaire à une perte de temps pour moi. Pour...
toute la journée.
Les stars du rire sont réunis sur Rire et Chanson.
Bienvenue.
J'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, hein, tout hasard, qu'on m'a déjà dit à moi, en toute détente, tu sens bon pour un noir. Ah oui, c'est marrant ça, hein. Bon, ça, c'est parce que je vais me faire parfumer gratuitement chez Sephora aussi. Bon, oui, c'est gratuit, j'en profite. Et la dernière en date, elle voulait me vendre un parfum en fonction de mon physique. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oula, c'est pour du parfum, j'imagine, pas pour du fond de teint. Je plaisante, ne me dites rien. Blague XS? Je plaisante. Allez-y, suivez-moi. Pas trop près, hein, distance de sécurité nasale. Alors, quand je vous regarde comme ça, j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez fort. Hein. Quelque chose d'assez épicé. Quelque chose qui rappelle vos origines. Est-ce qu'on partirait pas sur de la banane ou de la noix de coco éventuellement? Oui, parce que je suis assez physionomiste, c'est-à-dire que j'aime analyser le client, comprendre ses besoins, afin de lui proposer une prestation globale au niveau du parfum. Je vous demande une petite seconde. Sylvie! Sylvie! Sylvie, regarde la cliente asiatique là-bas. Regarde la cliente asiatique là-bas. Bah oui, mais je sais pas si tu regardes, tu louches, ma chérie. Hein? Voilà, regarde. Regarde, c'est en réserve, il ne reste pas des effluves de crème brûlée. Ou quelque chose à base de jus de citron ou de jaune d'œuf éventuellement. Hein, enfin, tu choisis, hein, j'ai pas envie de te brider. Bon, où est-ce qu'il est, Banania? Ah, bon, voilà. Alors, est-ce qu'on partirait pas? Est-ce qu'on partirait pas sur le Banana Moon de chez Guerlain? En même temps, pour les gens comme vous, Papa et Coco de chez Fabre, ça vous irait très bien. Hein. Vous voulez que je vous vaporise pour la journée ou pour la semaine? Est-ce que c'est possible pour le mois complet? Parce que bon, vous savez, les gens comme nous, bon, on a peur de la douche, quoi, on a peur de ça. Bon, elle, la connerie, elle s'est clairement parfumée avec, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les cons, ils ont plus honte d'être cons. Les cons, aujourd'hui, ils pensent avoir le droit d'être cons. Et un con qui pense, c'est comme Marine Le Pen en boubou à un concert d'Amadou et Mariam. Hein, ça n'existe pas.
Cet été, les plus grandes stars du rire vous accompagnent. Alors, ne partez pas sans Rire et Chanson.
Bonnes vacances.
sings to you. And so I have to say before I go
les nouvelles stars du rire sur Rire et Chansons. Laurie Perret.
Je suis très contente d'être là parce que je vais avoir 40 ans dans 3 mois. Et ouais. Et que je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Déjà parce que je comptais pas du tout arriver jusque-là vu tout ce que je me fous dans la corniche. Non, vraiment. Non, je sors trop, je bois trop. Moi, je pense que si j'avais faim d'un WC, personne s'en serait aperçu. Des problèmes de motricité, discours incohérent, paralysie faciale. Pour moi, c'est plus ou moins les symptômes d'un samedi soir, quoi. Non, je pense que sur ma tombe, il y aura une pierre avec marqué « On t'avait prévenu ». C'est vrai que je sors trop. Et en plus, il m'arrive un truc formidable depuis à peu près un an qui a changé ma vie et qui n'arrange rien. C'est que j'ai obtenu la garde alternée. C'est incroyable, la garde alternée. Quelle invention! Mais alors moi, ça me fout dans une merde fluo. Parce qu'avant, j'avais un week-end sur deux pour faire ce que j'aime faire, à savoir de la merde. Alors que maintenant, je le fais une semaine sur deux. Tu sais, j'alterne entre semaine paire, semaine impair, semaine détox, semaine de tox. Tu sais, je sais plus si je suis Super Nanny ou Amy Winehouse. Après, les deux sont mortes. C'est peut-être un signe. Non, voilà, 40 ans bientôt. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Après, c'est vrai que je mène une vie parsemée d'embûches que je me suis créée toute pièce. Là, par exemple, vous pensez que j'ai une frange? Pas du tout, j'allume mes clopes à la gazinière. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc un peu marrant. J'étais en voiture et je roulais très très vite sur le périph. Et là, je fais tomber ma clope sous le siège passager. Qu'est-ce que je fais en toute logique? Ben, je la ramasse. Et quand je suis là, je vois le flash, je me fais flasher. Et j'ai imaginé la photo. Ils ont dû recevoir la photo d'une petite caisse qui roule à balle, sans conducteur. Et je pense que c'est le symbole parfait de mon existence. Vraiment, c'est comme ça que j'arrive dans la vie. Non, 40 ans. 40 ans, c'est un âge incroyable. Je veux dire, on voit plus les choses de la même manière. On devient un peu pragmatique. Je veux dire, par exemple, les dates, les rencarts. Avant, quand j'avais un date, tu sais, je stressais, je partais m'épiler, j'enfilais des collants. Alors que maintenant, quand j'ai un date, je passe chez le roi Merlin. Eh ben oui, tu passes Pumpkin le week-end sans me poser une applique. Eh oui, on devient pragmatique. Voilà, t'emmerdes pas avec le brunch le dimanche, bébé, ramène ta caisse à out. Mais c'est vrai que j'aimerais bien... J'aimerais bien m'inscrire dans une relation un peu plus longue parce que j'ai les chambres à repeindre. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même une libido, quoi. Je veux dire, déjà, comme toute meuf de 40 ans qui se respecte, j'ai un vibromasseur. Vous avez vu, les meufs, elles aiment bien dire « Oh, j'ai un jouet !» Non, moi, j'ai une arme de poing. Très dangereux, c'est un taser. Je me déclenche des crises d'épilepsie toute seule. Non, très très dangereux. T'es femme fontaine, tu finis en Claude François. Hein. 40 ans, 40 ans, c'est un âge formidable. Et je me sens bien et j'ai trouvé une espèce.
retrouvez les 15 radios FG Mix,
FG Mix
sur l'appli Radio FG et radiofg.com.
The After Hours Mix in Club Life by Tiësto with Unji Bunji Legacy. After that, the beautiful track from The Blaze, Territory in the Summer Remix. Wakayin at Run is Goliath and Bees and Honey, Ice to Water. Will Clark, Pray in the Christian Nielsen Remix. And Emmanuel Sati, Tim Aylhart, Maga and Sean Doron, Touch of Love. A lot of amazing tunes you just heard in the After Hours Mix. And if you want to hear more of this kind of music, make sure you check out my Spotify playlist. It's called After Hours by Tiësto. Easy to find on Spotify. The next one is Paradox, Answers. We'll be right back.
FG Mix.
Au platine d'FG Mix.
Tiesto.
Intoxicated, front to the back, get intoxicated. Break it down, move to the beat, bass is pumping. Front to the back, get intoxicated. Front to the back, get intoxicated. Break it down, move to the beat, bass is pumping. Front to the back, get intoxicated. Front to the back, get intoxicated. Front to the back, get intoxicated.
RTL, il est 1h. 24 heures d'info, Mathilde Vé-